un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 2 septembre 2024, jour de la rentrée scolaire. On va y revenir sur cette question-là tout à l'heure. Et donc voici cette chronique en direct depuis les studios de Radio Libre en Périgord, avec Jean-Louis, au micro donc de RLP. Alors je voudrais commencer cette chronique en saluant la mémoire de Henri Leclerc, disparu donc pendant ce week-end, et auquel Mediapart consacre un article qu'il titre, en parlant d'Henri Leclerc, « Il a montré qu'un avocat ne doit pas se contenter de faire son métier dans une salle d'audience ». Je pense que nous reviendrons dans une prochaine chronique sur la disparition d'Henri Leclerc, la place qu'il a pris comme dirigeant de la Ligue des droits de l'homme, les relations entre la libre pensée et la Ligue des droits de l'homme, dans lesquelles il jouait un rôle important, je pense, nécessite que nous revenions donc sur la disparition d'Henri Leclerc, ce grand homme. Le deuxième sujet sur lequel je veux intervenir, j'en ai parlé rapidement la semaine dernière, c'est l'initiative du relais du drapeau de la Palestine, du drapeau palestinien, le drapeau de la libération, qui se déroule partout à travers la France. Je crois que samedi, c'était à Bordeaux. Et le relais de ce drapeau va se porter en Dordogne cette semaine, jeudi 5 septembre à Périgueux et vendredi 6 à Bergerac. Et le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée vous appelle à participer, en fonction bien sûr de ce qui est le plus pratique pour vous, à ces relais, donc je rappelle, à Périgueux jeudi 5 et à Bergerac vendredi 6. Je rappelle le contexte de cette initiative. Le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice avait reconnu, citation, « le risque de génocide à Gaza » et imposer à Israël des mesures conservatoires pour l'éviter, mesures qui n'ont pas été exécutées. Le 2 mai 2024, le ministère palestinien de la Santé parlait déjà de 496 soignants tués depuis le 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Le 20 mai 2024, le procureur de la Cour pénale internationale a déclaré avoir demandé, entre autres, le mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. Le 19 juillet, la Cour internationale de justice avait déclaré l'illégalité totale de l'occupation militaire israélienne, y compris à Gaza, que les solutions d'avenir étaient de quitter les territoires et d'indemniser les Palestiniens, qu'il y a une situation d'apartheid dont les Palestiniens sont victimes. Au 29 août, le nombre de morts recensés à Gaza était proche de 42 000 et la revue américaine The Lancet annonçait qu'il y aurait au moins 186 000 morts directs ou indirects, dont 165 journalistes. Nous avions parlé de ce sort terrible pour les journalistes palestiniens la semaine dernière. Et depuis le 26 août, les forces de sécurité israéliennes mènent en Cisjordanie l'une des plus vastes opérations depuis des années, avec des frappes aériennes et des attaques de drones qui ont tué nombre de civils. Soutenir les actions des tribunaux internationaux passe aussi par l'action de solidarité partout, en France et dans le monde. Par ce relais du drapeau palestinien en France, nous disons « cessez le feu immédiat et stop à la colonisation ». De manière pratique, le rendez-vous à Périgueux, le jeudi, donc, 5 septembre à 17h30, le départ, c'est la Voie des Stades, donc 5 septembre, 17h30, Voie des Stades, rond-point, Rongiras, et le trajet de la déambulation se passera par le Moulin du Rousseau, passerelle entre, derrière les pompiers, pardon, parc Raymond des Rogers Gorce, espace Franck Grandou par la passerelle Jean Ferrat, et à 19h, un pot de solidarité sera servi. Pour ce qui concerne le relais du drapeau palestinien, à Bergerac. Le départ, pour ce qui concerne donc le relais à Bergerac, vendredi 6 septembre, 17h30, départ au port de Bergerac, pleine de pics cailloux, reprise des véhicules ensuite jusqu'au barrage des Tuilières, relais barrage étuilière, bassin de 5 après de la Linde, et à 19h également, impôt de la solidarité, il sera servi. Voilà, donc nous appelons nos auditrices auditeurs à rejoindre ces relais à Périgueux, jeudi 5 septembre, à Bergerac, vendredi 6 septembre. Alors, j'indiquais en introduisant cette chronique que nous étions, bien évidemment, c'est la une de l'actualité aujourd'hui, le jour de la rentrée scolaire. Et cette rentrée s'accompagne d'un certain nombre de choses. Alors, première caractéristique, le ministre de l'Éducation nationale est une ministre démissionnaire depuis maintenant de nombreuses semaines, comme tout le reste du gouvernement, et que des expériences sont faites, notamment, par exemple, sur la question de l'uniforme scolaire. Et dans le Club Mediapart, M. Girard produit un article que je vous propose de partager parce que ça me semble être une réflexion intéressante sur cette question. C'est titré « L'uniforme scolaire, un gadget politique ». Comment ? Dans un pays où il n'y a jamais et où il n'a jamais fait partie des habitudes, l'uniforme scolaire peut-il faire l'objet d'une expérimentation sans susciter l'expression massive d'une réelle incrédulité ? Lorsque la déraison côtoie à ce point la politique, il doit bien y avoir une raison. Juste une petite remarque personnelle, il n'y a pas eu effectivement d'habitude de l'uniforme scolaire dans l'école publique. Maintenant, dans les écoles privées, on a vu sur ce plan-là comment l'uniforme était un moyen d'encaserner les élèves. Et alors, M. Girard poursuit. Comment dans un pays où donc, il n'a jamais fait partie des habitudes de l'uniforme scolaire peut-il faire l'objet d'une expérimentation ? Présenté comme scientifique, sans susciter l'expression massive d'une réelle incrédulité à défaut d'une franche hilarité. Comment les journaux, les télés, les radios peuvent-ils faire leur une sur un gadget qui concerne quelques dizaines d'établissements sur 60 000 ? Ce sujet, complètement étranger à l'école, né des fantasmes de quelques politiciens, est à l'origine d'une bulle médiatique complètement irrationnelle. Mais lorsque la déraison côtoie soin la politique, comme on le disait en titre, il doit bien y avoir une raison. Dans l'accession de l'uniforme scolaire au rang des incontournables de la rentrée, rien ne tient la route. L'uniforme pour rendre moins visibles les inégalités sociales dans un environnement éducatif qui, plus qu'ailleurs, fait découler la réussite ou l'échec des élèves de leur milieu social, où la ségrégation sociale et souvent ethnique régit le choix des établissements, il est effectivement plus facile de mettre les élèves en uniforme que de travailler à rendre plus juste un système scolaire historiquement fondé sur la différenciation école du peuple, école des élites, et qu'il l'est pour une bonne part resté en dépit de la massification de l'enseignement secondaire. Une massification qui n'a jamais été une démocratisation. Un peu comme en Grande-Bretagne, où les enfants des riches en uniforme de riches fréquentent les écoles de riches et les enfants de pauvres en uniforme de pauvres les écoles de pauvres. Il ne devrait échapper à personne qu'en France. La revendication de l'uniforme est portée par un gouvernement favorable aux classes de niveau en collège, un dispositif dont nul n'ignore la dimension socialement et ethniquement discriminatoire. Mais avec l'uniforme, ça se voit moins. Dans un pays où, par ailleurs, 3 millions d'enfants, un enfant sur 5, vivent sous le seuil de pauvreté, et où plusieurs milliers d'enfants dorment chaque nuit dans la rue, l'uniforme scolaire n'est même pas une rustine sur la pauvreté, juste une arnaque, d'une logique très voisine de celle du SNU qui prétend promouvoir la mixité sociale par un séjour de 2 semaines en uniforme. L'uniforme comme remède au harcèlement scolaire ? À condition d'ignorer les travaux et les recherches accumulées sur un sujet qui mérite mieux que les annonces et les postures d'un ministre en campagne de promotion pour sa petite carrière. À condition également de fermer les yeux sur la réalité du harcèlement dans les pays où l'uniforme non seulement ne l'empêche pas, mais peut-être même l'aggrave, comme c'est le cas au Japon, avec le suicide chaque année de plusieurs centaines d'élèves, 500 en 2021, qui tous portent l'uniforme. L'uniforme contre le communautarisme, à condition de considérer la robe portée par quelques jeunes filles comme une menace pour la République, à condition également de faire de la laïcité, historiquement symbole de tolérance et de liberté, un outil de surveillance et de coercition. On peine à comprendre par quel détournement la loi fondatrice de 1905, la République assure la liberté de conscience, article 1, autoriserait une administration à régenter les tenues vestimentaires de la société civile. L'uniforme, comme en Outre-mer, régulièrement mis en avant pour justifier le principe de l'uniforme scolaire. Le cas très spécifique de l'Outre-mer, notamment aux Antilles où l'uniforme scolaire est le reflet de stéréotypes de genre qui animent les communautés éducatives, apparaît plutôt comme un contre-exemple. Car, outre que l'uniforme n'y a pas force de loi, ne résultant que du choix propre à chaque établissement et non d'une exigence administrative, les effets bénéfiques n'apparaissent ni dans les résultats scolaires, les académies d'outre-mer comptant parmi les plus mal classées, par exemple pour les résultats du bac, ni dans le climat d'établissement, comme on peut le constater notamment en Guyane, où le niveau de violence atteint des proportions qui affolent les personnels. Et c'est précisément cette obsession des politiques autour de la tenue vestimentaire des élèves, on ne compte plus les propositions de loi parlementaires sur le sujet depuis une vingtaine d'années, qui, en dépit de la futilité objective du sujet, le fait passer de l'anecdotique au symbolique, à l'idéologique. Car, à la différence de la Grande-Bretagne, où la tenue vestimentaire des élèves résulte d'un choix propre à chaque établissement. En France, le sujet est porté, imposé par les politiques, ce qui change la donne. Quelle est alors la nature réelle d'un régime politique qui prétend s'immiscer dans un domaine qui relève traditionnellement de la sphère privée? Un régime dans lequel un chef d'État, ou son épouse, et un ministre de l'Éducation nationale réduit au rôle de porte-voix du président, s'arroge sans aucune considération pour les intéressés un droit de regard sur l'intimité de plus de 12 millions d'élèves et de leurs familles, un abus de pouvoir qui, à ma connaissance, ne se retrouve dans aucune démocratie. Mais aussi un régime où le président peut, sans aucun débat public, faire de l'éducation son domaine réservé. Autant d'interrogations qui renvoient également à l'accroissement sans fin du champ d'intervention d'un État éducateur aux prérogatives toujours plus extravagantes, école obligatoire, SNU, etc., et toujours plus brutales, puisqu'il s'agit le plus souvent de surveiller et de punir. Vu sous cet angle, l'uniforme scolaire n'est pas seulement anecdotique. Et donc le même auteur de ce billet publié dans Mediapart a écrit également, alors là c'était, on remonte fin février, le 29 février 2024, un billet que je vous propose qui complète ce que je viens de vous lire. Donc ce billet est titré « 13 millions d'élèves en uniforme au service d'une communication politique ». Comment dans un pays où il n'a jamais été l'objet de la norme, l'uniforme scolaire peut-elle faire l'objet d'une expérimentation étendue sans susciter l'expression massive d'une réelle incrédulité? C'est la question donc qui est reposée dans le texte que je viens de vous lire à l'instant. Donc, je rappelle que là, on est fin février 2024, plusieurs niveaux de lecture aux annonces gouvernementales sur l'uniforme scolaire. Le plus classique consiste à relier ce sujet aux conceptions éducatives traditionnelles de la droite et de l'extrême droite, où dominent les préoccupations d'autoritarisme confondues avec l'autorité, et de mise au pas des élèves et des établissements scolaires, ainsi que le refus d'envisager ce que pourrait être une école qui aurait comme priorité de transcender les inégalités sociales. En quelque sorte, l'uniforme à l'école plutôt que la justice, inconnu très marginalement dans l'histoire scolaire de la France et de l'Europe, Grande-Bretagne exceptée, le thème de l'uniforme depuis une vingtaine d'années n'a été promu sujet d'actualité que sous la pression ahurissante, compte tenu de la nature du sujet, des politiciens de droite et d'extrême droite, une vingtaine de propositions de loi déposées au Parlement, relayées avec une complicité et une complaisance jamais démenties par la majeure partie des médias. L'uniforme scolaire, s'il venait à être généralisé, ne remédierait en rien à l'échec scolaire ni ne toucherait à la nature d'un système construit de longue date sur la sélection sociale. En quelque sorte, l'uniforme scolaire, pour se donner bonne conscience, a peu de frais. À un autre niveau, les annonces d'Attal et des successeurs de ses successeurs s'illustrent s'il en était encore besoin. Le fonctionnement non démocratique, profondément autoritaire, non seulement de l'éducation nationale, mais des institutions politiques qui attribuent à l'exécutif un pouvoir exorbitant dont on n'a d'exemple dans aucune démocratie. Dans quel genre de régime politique la jeunesse peut-elle se voir imposer le port de l'uniforme sur le simple claquement de doigts d'un ministre, du président ou de son épouse? Dans quel pays un ministre, un président peuvent-ils dire « je veux » à 13 millions d'élèves et à leurs familles, à 1 million de personnels d'établissement, sans susciter un haussement d'épaule ou une vigoureuse contestation? En Grande-Bretagne, où d'ailleurs, nulle réglementation nationale n'existe sur le sujet. La tradition de l'uniforme s'appuie sur une autonomie réelle des établissements et non sur un oukase ministériel qu'on attend plutôt de la Russie poutinienne. Mais nous sommes bien dans la France de 2024. Le choix autoritaire de l'uniforme pour tout un pays est la marque d'un profond mépris pour les élèves et les familles, mais aussi pour les personnels des établissements infantilisés, réduits au rang de simples exécutants des caprices officiels. Un troisième niveau de lecture s'intéresse à la forme donnée par Attal, d'abord comme ministre de l'Éducation nationale, puis comme Premier ministre, à sa communication. Car il s'agit bien de communication et plus précisément d'une mise en scène, apparaissant partout à la fois sur les plateaux de télé, dans les studios de radio, bénéficiant d'une couverture médiatique surréaliste eu égard à la médiocrité du sujet. Cette obséquiosité des journalistes pour un ministre. Attal fait son show, mais la décision qu'il annonce, péremptoire sur la forme, est en réalité beaucoup plus louvoyante sur le fond. Sans doute bien conscient que la généralisation de l'uniforme scolaire s'avérait dans l'immédiat impossible, Attal expose doctement sa théorie de l'expérimentation de l'uniforme, attribuant à l'école la fonction traditionnelle du lave-linge ou d'une marque de lessive, une expérimentation qui sera évaluée scientifiquement dans 2 ans, promet-il, peut-être sous les auspices des neurosciences et du Conseil scientifique de l'éducation. Ubu ministre. Mais pourquoi donc, dans 2 ans, sinon pour repousser à la date vers des échéances électorales pour lesquelles Attal semble manifester une attention plus soutenue que pour son travail quotidien de Premier ministre, je rappelle, nous sommes donc en février 2024, et donc ce n'était pas encore le gouvernement démissionnaire. C'est sans doute dans cette optique que sa cellule de communication a imaginé un curieux système de financement de l'uniforme scolaire, entièrement à la charge de la collectivité, dans le but d'écarter au moins momentanément une contestation trop vive des familles. Momentanément, car il vaut sans doute mieux laisser dans l'ombre ce qui suit. Si l'on estime à 300 euros en moyenne le coût moyen d'un uniforme, c'est le cas en Angleterre, son extension à 13 millions d'élèves générerait une dépense publique annuelle approchant les 4 milliards d'euros, somme à laquelle il faudrait d'ailleurs ajouter les 3 milliards prévus pour la généralisation du SNU. La mise au pas de la jeunesse, vieux fantasme de la droite et de l'extrême droite, aurait donc un coût qu'une expérimentation limitée permet provisoirement d'occulter. 7 milliards d'euros ponctionnés sur la richesse publique dans un pays où 20% des élèves vivent sous le seuil de pauvreté et où plusieurs milliers d'entre eux dorment dans la nuit dans la rue. 7 milliards d'euros rien que pour relayer le rêve de toute puissance et concrétiser la pitrerie de politiciens à la chasse aux électeurs. Ce qu'attend Attal d'une bruyante campagne de communication, arrogante et décomplexée. C'est donc une forme de retour sur investissement. Peu importe à la limite que la décision revenant en la matière au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements, l'uniforme scolaire ne touche finalement qu'un nombre limité d'élèves. Cette indécente opération de communication aura surtout pour objet de conforter l'image d'Attal dans l'électorat de droite et d'extrême droite. Indécente, car il faut une nouvelle fois poser la question de l'instrumentalisation du service public d'éducation au bénéfice des ambitions personnelles du pouvoir en place, ce qu'autorise un système éducatif centralisé, quasi-absolutiste, construit autour de l'obéissance indiscutée à l'autorité supérieure. Avec le principe de l'uniforme scolaire, les personnels, les parents d'élèves, les parents, les élèves, avec une excuse pour ceci par nature contraint, sont comme un rouage dans la promotion de la carrière de politiciens qui n'ont plus de légitimité à la tête d'une administration censée représenter l'intérêt général. Refuser l'uniforme à l'école, il suffirait d'un peu de courage et de discernement de la part des personnels, des parents et même des élèves pour les plus grands, pour contrecarrer les ambitions d'Attal et surtout redonner sens et la crédibilité à une éducation nationale qui n'en a plus guère. Courage et discernement qui n'ont manifestement pas eu les enseignants de Béziers rentrant avec une facilité déconcertante mais qui laisse mal augurer de l'avenir dans le jeu d'un politicien d'extrême droite. À l'école comme ailleurs, les valeurs de la République s'accommodent de toutes les compromissions. C'est sans doute dans leur nature. Voilà. Fin donc de ce billet, écrit toujours par le même monsieur B. Girard, et publié donc dans le club Mediapart. Voilà. Donc bien évidemment, vous pourrez retrouver ces documents que nous publierons donc sur le site du groupe Fred Zeller dans le compte-rendu de cette chronique, donc du 2 septembre. Alors, un autre sujet tout à fait d'actualité, et j'y faisais référence à l'instant. Bon, il n'a échappé à personne que nous vivons dans une situation où le pays est dirigé par un gouvernement démissionnaire, où compte tenu des démissions de conseillers dans tous les ministères, il n'est dans certains ministères même plus possible d'assurer les affaires courantes. Et donc c'est quelque chose de surréaliste. Et dans cette situation, peut-être ce soir aurons-nous une décision en ce qui concerne la nomination d'un Premier ministre, et tout laisse penser que là, nous sommes dans un total déni de démocratie eu égard aux choix qui sont véhiculés par les médias sur ce poste de Premier ministre. Donc la Fédération nationale de la libre-pensée, qui est attachée au respect de la démocratie, qui a toujours considéré que les institutions de la Ve République étaient parfaitement antidémocratiques, propose cette réflexion à travers ce communiqué. En cette rentrée de septembre, tout est encore possible à deux conditions. La rupture totale avec le système, en finir avec les institutions de la Ve République. Il est de plus en plus clair pour tout le monde que nous sommes en train de vivre un véritable et terrible déni de démocratie de la part de l'autocrate Macron Ier. Espérons qu'il n'y aura pas un Macron II. Son refus d'accepter le verdict des urnes confine à la pure folie. Il s'accroche au pouvoir comme une moule à son rocher, en refusant l'évidence de la situation dans le pays. Les résultats des élections législatives pourtant est clair et net. Échec patent de l'extrême droite rejeté massivement par le pays. Rejet écrasant confirmé d'Emmanuel Macron et de la Macronie. La gauche unie NFP remporte les élections à l'Assemblée nationale. La libre pensée est déclarée après le deuxième tour des législatives. Mais soyons lucides. Tout va être fait, par certains dans tous les camps, pour voler la victoire du 7 juillet 2024 au peuple. Le pays sera ingouvernable si nous restons dans le cadre des institutions de la Ve République. Tous ceux qui voudront respecter la volonté populaire seront immanquablement amenés à remettre en cause l'obstacle que représente la constitution réactionnaire et liberticide de la Ve République. Nul doute que le peuple les soutiendra dans cette entreprise salutaire. Si nous voulons respecter la volonté populaire, il faut briser les institutions réactionnaires et en finir avec la Ve République. On ne peut respecter la volonté populaire et appliquer le programme de la gauche unie qui vient de remporter les élections en mettant en œuvre les combines politiciennes de la Ve République. Emmanuel Macron a utilisé tous les mécanismes de la Ve République pour ouvrir la voie à l'extrême droite sur l'orientation, moi ou le chaos. On a eu le chaos et lui. Et il faut en finir avec Jupiter pour se débarrasser du chaos. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Emmanuel Macron, un agent du capital financier. Alors c'était donc, je précise que ce que je viens de dire, là, c'était donc extrait de la déclaration qu'avait fait la Libre Pensée immédiatement après le deuxième tour des législatives. Donc nous reprenons la déclaration de ce début septembre. Nous avons lu avec intérêt une explication de Romaric Gaudin sur Mediapart du 27 août 2024, citation, « La réalité, c'est que les macronistes n'accepteront pas de compromis hors du cadre étroit et défini par le MEDEF. La politique économique doit rester la même. C'est ici qu'agit la clarification présidentielle. L'économie est désormais exclue du champ démocratique. Emmanuel Macron entend rendre réel ce vieux rêve néolibéral, mais en le rendant encore plus contraignant, car ce qu'il défend, ce n'est pas seulement l'indépendance du politique et de l'économique, c'est la soumission du politique à l'économique. Notre République moderne ne peut plus agir sans avoir reçu le blanc-seing des intérêts du capital, ou bien la colère de la déesse économie se déchaînera sur le pays. En d'autres termes, la République règne, mais ne gouverne pas. Celui qui gouverne, c'est le capital, et il gouverne même en l'absence de gouvernement. D'ailleurs, la décision de Gabriel Attal de geler, c'est-à-dire de réduire, les crédits pour 2025 sans avoir de validation parlementaire n'est rien d'autre qu'une preuve de ce gouvernement du capital. » Fin de citation, qui est tout à fait éclairante, je trouve. Dans cette citation, le terme « économie » fustige bien entendu la conception étroite qu'ont de cette notion les défenseurs du système prédateur actuel, dont la finalité exclusive est l'accumulation sans fin du capital par un groupe restreint. C'est ce que Karl Marx appelait l'esprit des temps sans esprit. Depuis 2017, Emmanuel Macron n'a cessé de s'attaquer à l'édifice légal des libertés, faisant entrer dans le droit commun des mesures d'exception. On ne compte plus le nombre de dispositions adoptées ces dernières années au nom de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme ou de l'urgence sanitaire. La Ve République est le terreau sur lequel prospère l'extrême droite. C'est pourquoi la seule solution est de mettre en œuvre une assemblée constituante élue et souveraine pour que le peuple, et lui seul, décide des institutions qu'il souhaitera pour le représenter et défendre ses intérêts. Aujourd'hui, tout est possible, à la seule condition de faire une rupture totale avec tout ce qui s'est passé depuis des années. La rupture, c'est d'abord tout de suite la nomination d'un gouvernement NFP issu des urnes pour mettre en œuvre la volonté exprimée le 7 juillet 2024, l'abrogation des lois scélérates, loi scélérate-Cazeneuve de 2017 sur la sécurité publique, sécurité globale, séparatisme, immigration, l'abrogation des lois et mesures antisociales, retraite et décote, chômage, emploi, RSA, AME, abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti-laïques, augmentation massive du SMIC. La Ve République a commencé par un coup d'État. Elle finit dans la pourriture la plus abjecte. Il faut en finir définitivement. Il faut balayer les institutions de la Ve République, la parole au peuple, constituante pour la République. Et bien évidemment, en prolongement tout à fait cohérent avec cette déclaration, la libre pensée prendre parti avec les initiatives qui vont être prises pour dénoncer donc ce déni de démocratie qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Voilà. Alors, j'ai plusieurs autres sujets dont je ne verrai pas le temps de vous parler. Juste pour les citer, il y a en particulier ce qui se passe dans l'Hérault, une fois de plus. Le préfet de l'Hérault interdit toute manifestation de soutien au peuple palestinien au motif, citation, et c'est assez même ahurissant, que toute initiative, donc toute manifestation de soutien au peuple palestinien, contient de manière directe ou indirecte un soutien au Hamas. C'est absolument abject comme motivation, et l'ensemble des associations et organisations de l'Hérault sont précisément en train de travailler. Je crois qu'il est prévu une conférence de presse de leur part aujourd'hui ou demain. Et donc, bien évidemment, lors de notre prochaine chronique, nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, et puis donc l'autre point dont je voulais parler, mais j'y reviendrai plus largement dans une prochaine chronique, c'est la présentation du prochain numéro de l'Idée Libre, qui paraît dans quelques jours, que nous recevrons dans quelques jours. Et comme vous le savez, là, cette revue contient dans chaque numéro un dossier. Et ce dossier est titré « Autour du blues ». Donc nous reviendrons là-dessus. J'ai le temps de vous en lire quelques lignes de l'introduction. Le blues est toujours là. Samedi 18 mai 2024, il pleut sur Washington. Nous sommes quelques dizaines à patienter sous la pluie en attendant l'ouverture des portes du Blues Alley, un club réputé du quartier de Georgetown dans un passage non loin du Potomac. La salle est petite, la scène est minuscule, mais dans quelques instants, de Pharaoh Thunderbirds, vont, comme depuis 50 ans déjà, faire résonner le son du blues, sa rythmique, son chant. Elkin Wilson, un harmoniciste et chanteur de grand talent, va tenir la scène. Le blues est toujours là, avec les mêmes 12 mesures immuables, avec les mêmes chansons qui parlent de peine et d'espoir, avec la même ferveur, la même magie, musique sacrée et musique du diable, ou tout simplement musique des hommes, qui parle au cœur de chacun, issus des rives boueuses du grand fleuve, du Deep South. Envoûtant et mystérieux, le blues a toujours accompagné la vie du peuple noir américain, écrivant sa propre histoire. Voilà. Donc nous reviendrons sur ce sujet dans une prochaine chronique, avec sans doute une initiative autour de ce nouveau numéro de l'Idée Libre. Et je vous donne rendez-vous donc pour notre prochaine chronique. Nous serons donc le lundi 9 septembre pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Merci pour cette chronique à Antoine d'avoir assuré la partie technique. Et rendez-vous dans une semaine. Au revoir.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord, et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.